On va pencher nos têtes. On va remettre ce temps de partage de la parole-là entre les mains de notre Dieu. On va s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose dans nos cœurs. Alléluia. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta douce présence, Seigneur, ta paix, ta joie que tu mets dans ce lieu. Je te remercie de remplir nos cœurs de joie par ton Saint-Esprit. Je te remercie de vouloir nous affirmer, nous fortifier, nous rendre inébranlables dans la foi, puis qu'on puisse persévérer dans cette idée-là que tu es mort sur la croix, tu as payé le prix pour que notre salut soit accordé, puis je te remercie, je te rends la gloire qui te revient dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme tout le monde le sait, on est dans la fin de semaine de l'Action de grâce. Puis il n'y a rien mieux que, mais c'est pas une fête qui est écrite dans la Bible nécessairement, mais c'est quand même une fête qui est dans notre calendrier. Puis dans l'Action de grâce, ça veut dire quoi? On rend des actions de grâce à Dieu. On remercie Dieu pour qu'est-ce qu'il nous donne. Puis on choisit cette période-là de l'année, savez-vous pourquoi? Parce qu'on est tout de suite aux récoltes. Les gens, les cultivateurs, ils ont cultivé, ils ont travaillé fort tout l'été pour amoncer leurs récoltes. Puis à la fin, c'est rien que normal qu'on puisse rendre la gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous donne à chaque jour. Puis qu'il pourvoit comme qu'il l'a promis. Puis encore aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas cultivateurs, mais ils peuvent quand même glorifier Dieu de leur pays qui rentre parce qu'ils chauffent un autobus. Ou parce qu'il y en a d'autres qui livraient de la malle dans une boîte à malle, de boîte à malle. Puis Dieu, c'était dans son plan qu'on a tous des jobs différents. Mais l'important, c'est qu'on prenne un temps pour penser qu'on a à rendre gloire à Dieu pour tout. Puis le Seigneur, il est glorifié quand on s'arrête pour lui rendre la gloire. Mais il n'y a pas juste à cause de ce qu'il nous donne qu'on peut lui rendre la gloire. Moi, je rends gloire à Dieu de ce qu'il nous utilise pour son royaume, pour sa gloire. Il nous utilise, on peut semer la parole, on peut évangéliser nos amis, nos voisins, ceux qui nous... Chacun de nous, on est utilisé pour sa gloire. Quand on loue le Seigneur tout ensemble, c'est encore un autre beau sujet qu'on puisse glorifier Dieu, d'être là, d'avoir une liberté de pouvoir s'approcher de lui puis le célébrer. Gloire à Dieu. Puis ce matin, on va voir un point dans la parole de Dieu qui est encore un sujet de rendre gloire à Dieu à travers de Jésus. Parce qu'on va voir dans les versets qu'on va aller lire tout ensemble que si on a un accès aujourd'hui de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, si on a un accès aujourd'hui qui nous donne accès à être sauvés, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, ça n'a aucun rapport à tout ce qu'on aura pu faire. Toute la gloire de cette œuvre-là revient qu'à une seule personne, c'est à Jésus. Puis si on va, dans les versets qu'on va étudier ce matin, ça va nous amener à focusser que c'est grâce à Jésus qu'on a tout. Puis que c'est par la foi en son nom qu'on obtient tout, en rien d'autre. Puis merci Seigneur de nous révéler cela dans sa parole, pour qu'on puisse s'affirmer dans cette position-là. C'est ça qui est le roc, le solide. Ce qui était caché de les temps anciens, c'était comme une pierre d'achoppement, une pierre qui était mise là dans le cours de l'histoire, puis que le monde s'enferme sur Jésus, mais ils ne savent pas à quoi que ça sert. Puis pourtant, c'est la pierre principale de l'angle pour ceux qui bâtissent. C'est Jésus. Il faut réaliser que c'est la pierre la plus importante pour chacune de nos vies. Jésus est le centre de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on va devenir. Toute la gloire revient à Dieu seul dans tout cela. Amen. Tiens, amen dans ça. On va voir un premier passage, puis la prédication est comme basée là-dessus, puis le titre du message c'est « Entrer par la porte étroite ». Dans Matthieu 7, 13 et 14, Jésus est en train de parler aux gens qui l'entouraient, puis il dit « Entrez par la porte étroite. » C'est une invitation que Jésus fait aux gens. C'est une invitation qu'il a faite dans ce temps-là, puis c'est encore écrit dans la parole de Dieu, puis c'est encore une invitation aujourd'hui pour tous ceux qui entendent ce message-là, que ce soit ceux qui sont ici présents ou que ce soit ceux qui vont l'entendre, le message sur Internet. Si vous écoutez ce message-là ce matin, Dieu veut parler à vos cœurs, puis il vous exhorte. Entrez par la porte étroite. Là, il donne l'explication pourquoi, parce qu'il dit qu'il y en a comme deux portes qui existent devant nous chaque jour. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, là, c'est Jésus qui est en train de faire comme un constat, qui est en train de dire, je constate, là, je vous dis, je vous déclare, vous avez tous deux chemins devant chacun de vous. Là, il ne parle pas qu'à nous autres, là, il parle à tout le monde sur la terre. Tous ceux les évangélistes prêchent Jésus, tous les évangélistes, ils annoncent le message, c'est tout basé là-dessus, il y a deux portes devant toi, puis ils nous exhortent et nous encouragent à prendre la porte étroite. On va voir dans ces versets-là quelques idées de base qui sont utiles à tous ceux qui désirent marcher dans une communion réelle avec Jésus. Parce que, veut pas, il y a deux portes et deux chemins. Quand il dit la porte est étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie, dans le mot grec, le mot vie, là, il y a deux mots pour désigner la vie. Il y a le mot qui dit la vie, le fait d'être, d'exister, d'être vivant. Ça, c'est le sens général. Puis l'autre mot qui a été pris dans ce texte-là, c'est le mot vie qui est zoé. Mais ça a un sens encore plus complet. C'est une vie de plénitude, une absolue de vie. C'est une vie débordante, la vie véritable, une vie active et vigoureuse, une vie de consacré à Dieu, une vie de béni dans ce monde, une vie pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ, puis après, ça sous-entend la continuité qu'il va avoir de vie dans une vie qui va durer éternellement. C'est plus que juste vivre. Jésus veut plus vous donner plus que juste exister. Il veut vous donner une vie abondante, une vie de plénitude. Je dis pas que la vie va toujours être facile, parce qu'il dit que le chemin, il dit étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Puis le mot resserrer, dans le grec, veut dire tribulation, problème, souffrance, difficulté. Ça veut dire, il y a un chemin que tu embarques dedans, il est dur, il est difficile, tu vas souffrir, tu vas avoir des problèmes, des tribulations, mais ça te mène à une vie de plénitude, une vie abondante, une vie remplie, mais pas de n'importe quoi, remplie de la présence de Dieu. C'est ça la vie véritable que Jésus offre si tu passes par la porte étroite. C'est comme tout le monde sur la terre veut pas choisir des portes. On a rentré par des portes. On marche dans des chemins. Ce n'est pas toujours le chemin qui est le plus choisi. Parce qu'il dit qu'il y en a beaucoup qui rentrent par la porte large. Puis il y en a peu qui rentrent dans le chemin étroit et resserré. Quand Jésus donne ce verset-là, entrer par la porte étroite, puis il dit qu'il y a une... Nous autres, on ne veut pas peser sur le fait ce matin, là, c'est quoi la perdition, puis c'est quoi le chemin large, c'est quoi le chemin qui égare. On veut juste s'assurer que tout le monde sont conscients d'être en train de marcher dans le bon chemin. Amen. C'est ça qui est important. Ce qu'on veut ce matin, c'est s'édifier dans la parole pour s'assurer qu'on est dans le bon... on a pris la bonne porte, puis on est dans le bon chemin. Jésus, juste dans ce verset-là, juste après, il donne deux petits exemples qu'on va regarder juste un survol rapide dans Matthieu 7, 15, qui est juste la suite de cela. Il est en train de nous démontrer que des gens qui vivent selon un système religieux et qui n'ont pas rentré dans la bonne porte. Parce qu'il dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qu'au-dedans, ce sont des loups. Ce qu'il veut nous dire, c'est que là, il nous dit « entre par la porte étroite », puis il y en a beaucoup qui rentrent dans une porte large, puis il nous dit tout de suite après « faites attention », parce qu'il y en a des gens qui ont une apparence de brebis, ça semble être des vrais qui ont rentré par la porte étroite, c'est pas des vrais. Ils sont encore dans la porte large, malgré qu'ils ont une apparence. Ils n'ont pas de réelle communion avec celui qui est le portier. Ceux qui, ça sous-entend ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas dans une communion réelle avec celui qui porte le fruit en nous. Et il dit, ces faux prophètes-là, tu vas les reconnaître par leurs fruits. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis un autre passage, il nous dit, demeurez en moi, puis vous allez porter du fruit. Mais il y a des faux prophètes, des gens religieux, sans communion réelle avec Dieu, qui ne portent pas de fruits. Puis il faut prendre garde à cela, parce qu'on ne doit pas suivre n'importe qui. Suite après, il donne encore un autre exemple de gens qui marchent dans une erreur. Ça, c'est dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. » Ces gens-là, ça ne s'adresse pas encore à des chrétiens ni de nouveaux. Ça s'adresse à du monde qui expérimente des choses spirituelles, mais Jésus ne les a jamais connus. Quand on parle du sens du mot connu dans le grec, l'original, ça parle de relation. Ces gens-là n'ont jamais eu de relation avec Jésus ou avec le vrai Jésus. Il faut faire attention. Parce que ces gens-là invoquaient un nom, mais ce n'était pas le vrai. Ils l'appelaient Seigneur, Seigneur. Ils ont vécu des expériences spirituelles, mais ils n'étaient pas vraiment en relation personnelle avec Jésus. Jésus ne les connaissait pas. Puis quand tu ne marches pas réellement en communion avec Jésus, puis que tu n'as jamais connu Jésus, puis Jésus ne te connaît pas, il dit que tu es un ouvrier d'iniquité. L'important, là, qu'il faut réaliser ce matin, c'est que je pense pas qu'aucun de nous ne veuille être catégorisé faux prophète ou ouvrier d'iniquité. Ce qu'on veut savoir ce matin, c'est comment faire pour être reconnu un véritable serviteur du Dieu vivant qui marche parce qu'il a passé à travers la vraie porte, puis il marche, il se tient dans le vrai chemin. C'est ça qui est la question ce matin qu'on veut se dire. Quelle est donc cette porte étroite qui me permettra d'être sauvé? C'est ça la première question que ces gens-là, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'ont pas passé par la bonne porte, ou ceux qui disent qu'ils sont faux prophètes, qui ont une apparence, parce que c'est des gens religieux, ils n'ont pas passé par la bonne porte, parce que quand tu passes par la bonne porte, Jésus te connaît. Il y a une relation intime qui commence avec Jésus. Une relation personnelle, une marche, une communion avec Jésus. Dans Jean 10, 7 à 9, ça nous dit, c'est encore une parole de Jésus, puis j'aime les paroles de Jésus, gloire à Dieu. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean 10, 7 à 9. Jésus dit, « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des voleurs puis des brigands. » Puis les brebis ne les ont point écoutés. « Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, puis il trouvera de verts pâturages. » Gloire à Dieu, une action de grâce au Seigneur ce matin. Merci Seigneur de nous avoir révélé que tu étais la porte. Alléluia. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, se proclamant le Christ, se proclamant le Messie, se proclamant le Sauveur, se proclamant « J'ai le plan du salut », mais qui n'était pas la réelle révélation de Dieu. La réelle révélation de Dieu, Jésus nous dit « Je suis la porte. » Tous ceux qui se proclament être une porte ou un autre accès à atteindre à Dieu ou un autre chemin pour atteindre Dieu, Jésus dit c'est des voleurs, des brigands, des criminels, des gens qui entraînent après eux les gens pour leur perdition, des aveugles qui conduisent des aveugles. La lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Et cette lumière est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus qui sauve. Et c'est le Jésus de la Bible, le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus qui est expliqué dans la parole de Dieu qu'on lit régulièrement dans le Nouveau Testament. Jésus est la porte. Puis le vrai nom de Jésus, pour ceux qui ne le savent pas, le nom que sa mère lui a donné, c'est Yeshua. Sa mère parlait en hébreu, puis ils ont donné le nom de Yeshua. C'était traduit en grec par Jésus, parce que le mot Yeshua voulait dire sauvé, délivré. Puis traduit en grec, le mot sauvé, délivré, c'était Jésus. Mais son vrai nom, c'est Yeshua. N'ayez pas peur de confesser le nom de Yeshua dans votre vie. C'est le vrai nom de Jésus. Mais en français, ils ont traduit par Jésus. Puis, je sais qu'il y en a que sur Internet, ils font des critiques pour dire que Jésus ne serait pas son vrai nom. Il faut référer au vrai nom qui est... Parce que Jésus, ça ne nous dit pas « sauver » en français. C'est pas le sauveur. C'est pas... Ça serait le sauveur. Hein? Christ, c'est son titre en tant que Christ ou un Messie. C'est un titre. Mais son nom personnel, c'était Yeshua qui veut dire sauvé, sauveur. Puis il était donné par qui, ce nom-là? C'est l'ange qui a dit à Marie, tu vas l'appeler comme ça. Gloire à Dieu. Il y a un verset dans 2 Corinthiens qu'il faut saisir. Là. Il y a une vérité dans ce verset-là, puis il faut s'arrêter là-dessus. 2 Corinthiens 11, 4. Aujourd'hui, dans le temps de Jésus, ça existait, ça existe encore aujourd'hui. Il y a présentement plusieurs sortes de Jésus qui sont présentes au monde. Ce Jésus-là qui est annoncé, l'authentique, c'est celle de la parole de Dieu. Mais dans les discours des prédicateurs, dans le discours des prophètes, dans le discours des ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ils nous présentent toutes sortes de formes de Jésus. Si tu vas dans la religion du Nouvel Âge, il y a un Jésus cosmique, puis l'autre, dans les francs-maçons, ils ont un autre type de Jésus qui ils décrivent comme étant quelque chose. Tu vas dans d'autres religions, c'est un autre Jésus qui présente, puis qui n'a pas les mêmes attributs, même dans les religions comme la religion catholique, ils ont un Jésus. Des fois, c'est un petit Jésus. On n'est pas là pour critiquer les religions, mais on est là pour expliquer les vraies affaires. C'est qui le vrai Jésus de la Bible? Dans 2 Corinthiens 11, 4, Paul est en train de réprimander les Corinthiens, parce que les Corinthiens sont en train d'accepter quelque chose de faux. Il leur dit, « Car si quelqu'un vient à vous, il vient vers vous pour prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Dans le temps de Paul, Paul devait se battre avec des discours, avec des écrits, d'envoyer ça dans les églises, puis des avertir. Faites attention, il y a des faux Jésus qui sont annoncés présentement. Ils ont des fausses évangiles qui sont annoncés maintenant. Puis il y a même d'autres esprits qui sont prêchés maintenant. Puis les Corinthiens, dans leur vie, dans le moment qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'on reçoit cette lettre-là, ils sont en train d'accepter cet autre Jésus-là, cet autre évangile, puis il dit, vous les supportez fort bien. Puis là, Paul, dans ses descriptions, si vous lisez 2 Corinthiens, ce que ça touche, il dit qu'il y a des faux prophètes là-dedans, il y a des faux docteurs. Puis c'est là-dedans où ce qu'on voit les passages que c'est pas étonnant qu'il y ait des faux docteurs. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant de voir que ses ministres, ses prédicateurs, se déguisent en ministres de justice. Puis ils rentrent dans les églises, puis ils prêchent des faussetés pour détourner les chrétiens du vrai évangile, du vrai salut. Jésus nous dit « Je suis la porte ». Et celui qui entre par moi, il sera sauvé. C'est un vrai Jésus-là, tu rentres par sa porte, qui est lui-même, C'est pas une porte en bois, c'est pas une porte en métal, c'est une porte en une personne qui est une porte. Cette porte-là, c'est Jésus. Si tu passes par Jésus, tu seras sauvé. Dans Actes 4:12, ça nous dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus. Au Jésus de la Bible, au Jésus du Nouveau Testament. Laissez-vous pas emporter par d'autres choses que ce qui est écrit là. Tu rentres par Jésus, tu es sauvé. Parce que c'est le salut qu'il veut donner Jésus. Il dit que celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire là-dedans? Que si tu rentres par la porte, par Jésus, tu rentres puis tu sors.
Par la même porte.
On pourrait penser la liberté par la même porte. Moi, quand je franchis la porte de l'Église, je rentre et je sors. Je sors de dehors puis je rentre en dedans. Ben, je vais vous l'expliquer en profondeur. Tu rentres par la porte, tu sors de dehors, tu rentres en dedans. Qu'est-ce qui se passe quand une personne se tourne vers Jésus, humble et repentant, puis qui croit que Jésus est le Sauveur, puis qui l'accepte comme son Sauveur personnel? Il se trouve à rentrer et à sortir. Ça se fait d'un instant. En un instant, la personne naît de nouveau. Qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance?
Tu reçois l'Esprit de Dieu.
Changement de royaume. Ça, il faut le saisir. Le salut, il est instantané au moment que tu te mets ta foi en Jésus. Tu es entré et sorti. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Quand tu franchis cette porte, là on va aller lire Actes 26, 18, que Dieu nous le décrit bien clairement, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment que tu tournes vers Jésus-Christ. Oui, Actes 26, 18. Paul, il est envoyé vers les gens des païens. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui les païens, mais c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs ni samaritains. Les païens, mais c'est nous autres. Paul est envoyé vers les nations autres que les Samaritains et les Juifs pour prêcher l'Évangile. C'est un apôtre, c'est un envoyé. Puis Dieu, il avait donné sa mission. Dans Actes 26, 18, il nous dit, « Je t'envoie là, afin que tu leur ouvres les yeux. » À partir du moment que tu commences à voir clair que c'est quoi le chemin, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia, gloire à Dieu! C'est quoi cette porte-là? C'est Jésus! Quand tu passes à travers Jésus, quand tes yeux sont ouverts, puis là tu t'aperçois, c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, qui est l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Quand tes yeux se rouvrent, puis que tu tournes vers Jésus, change de vie, tu te repens, tu as changé de vie, tu veux plus vivre comme tu étais avant, tu veux suivre ce Jésus-là. À partir de ce moment précis-là, tu es sauvé. Tu es changé de camp. Avant, tu étais dans les ténèbres, puis maintenant, tu es entré dans la lumière. Tu es sorti, tu es entré. T'es sorti des ténèbres, t'es entré dans la lumière. Avant, t'étais dans le royaume des ténèbres, puis là, maintenant, t'es rentré dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Avant, t'étais sous la puissance de Satan, parce que la Bible a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. L'ensemble de l'humanité vit sous la puissance du malin, jusqu'au jour où tes yeux se rouvrent, puis que tu réalises que c'est Jésus qui est le Sauveur, celui qui a payé le prix. Puis là, tu passes à travers cette porte-là, instantanément, tu es sorti du royaume des ténèbres, tu es sorti du royaume de Satan, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Tu es sauvé. tu sors, mais tu rentres. Puis tous ceux qui ont passé par Jésus, vous êtes entrés. Vous êtes parmi ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Avant cette nouvelle naissance-là, c'est impossible. Tu ne pouvais même pas le voir, le royaume. C'est juste quand tu commences, tes yeux se rouvrent, tu commences à discerner. « Ah, il y a une porte, c'est Jésus. Faut que j'y aille à Jésus pour être pardonné de mes péchés. » À partir du moment où tu as passé par Jésus, là, la Bible a dit que tu es né de l'Esprit, tu es né de nouveau. Dieu t'arrache de la puissance de Satan, puis des griffes de la puissance des ténèbres, puis il t'emmène dans son royaume. Tu fais partie des gens de la maison de Dieu. Tu fais partie du royaume des sacrificateurs du Dieu notre Père. On est le royaume qui ne périra jamais, qui ne sera jamais détruit et qui va vivre éternellement. Alléluia! Gloire à Dieu! Le sentez-vous ce matin que le Seigneur veut nous affermir? Il veut qu'on arrête, qu'on pense que moi je suis sorti de la porte, je rentre dans la porte, je suis sorti de la porte. Tu joues pas comme ça. Quand tu changes de camp, crois-les que Jésus t'a sorti de là puis t'a emmené là. C'est la Bible qui l'enseigne. C'est le vrai Jésus de la Bible qui l'enseigne. J'ai pas inventé, là, je vous dis, je vous lis les versets. Vous êtes les habitants des cieux. Il vous a ressuscité ensemble puis vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes, en attendant quoi? En attendant qu'on en finisse avec ce corps de chair-là, puis qu'il nous ressuscite en un clin d'œil, puis qu'on se retrouve avec tous les élus pour vivre l'histoire sans fin. On va être toujours avec le Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur! Ça là, c'est-tu une action de grâce à dire à Dieu le Père ce matin? Que merci Seigneur d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Puis il dit de se réjouir de cela. Merci Seigneur. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, puis il trouvera de verts pâturages. C'est là qu'on rentre dans l'idée, c'est le chemin qui te mène à la vie. Mais pas n'importe quel, le fait de dire juste exister en tant que chrétien, c'est plus que ça. C'est une vie de plénitude, c'est une vie débordante, c'est une vie comblée, c'est une vie dont le Dieu trois fois saint habite et vit avec nous. Il faut prendre conscience de notre nouvelle position en Jésus-Christ. On est des enfants de Dieu. Hallelujah! Il dit, il trouvera des pâturages. Quand tu rentres par cette porte-là, tu trouves la vraie nourriture. La vraie nourriture pour ta vie. Parce que c'est Jésus qui te conduit dans de verts pâturages. Ta croissance dans la foi est assurée. Tant que tu restes accroché à Jésus, il va te nourrir, il va te guider, il va te conduire, il va te protéger, et tu vas marcher en contact avec, il va consoler tes souffrances parce que le Consolateur, il est avec nous pour demeurer éternellement. Il va te bénir, il va être avec toi. Puis même quand ça va mal, même quand tu ne le sens pas, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. Peut-être quand vous êtes rentré, vous ne sentiez pas qu'il était là, puis vous dites, moi je vais attendre d'être rempli de l'Esprit dans l'ouange, puis là je vais sentir qu'il est encore là. Ça, c'est une fausseté que le diable vous a mis dans la tête. Quand tu es chrétien dehors, Jésus est encore là, tous les jours. Même quand tu es malheureux, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des tribulations, tu as des souffrances, tu as des combats, tu as des peines, tu perds de ta famille qui meurt, ou d'autres que c'est des problèmes monétaires, des problèmes de ti. Jésus nous avait averti que c'est un chemin resserré, mais c'est une vie de plénitude. Malgré le chemin resserré, tu peux vivre une vie de plénitude. Alléluia. Merci Seigneur de cette vie de plénitude. Non, elle a déjà commencé. Déjà de goûter la présence glorieuse et la puissance du Saint-Esprit, la joie produite par l'Esprit, le fruit produit par l'Esprit, de l'amour qu'on n'avait pas avant, que l'Esprit nous donne, de la joie qu'on n'a peut-être pas avant, puis que l'Esprit va nous donner, de la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Tu ne trouveras pas ça en allant jouer au bingo, tu ne trouveras pas ça en allant écouter un film à la TV. Tu trouves ça quand tu es en contact avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit-Saint. Quand tu es rempli, tu vas être rempli de sa joie, de sa paix, de sa patience, de sa douceur. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un repos. Malgré toutes les circonstances peuvent aller mal, tu peux être pleinement en paix et te faire confiance à Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Dieu a déjà pourvu à une provision qui te permettra que tu sois rassasié. Il ne veut pas laisser ses brebis mourir de faim sur le bord du chemin. Quand Jésus t'appelle, puis il dit « Viens », puis que toi tu réponds « Seigneur, je crois en toi », puis tu passes par Jésus, Jésus a déjà pourvu à ta nourriture et à ta provision. Mais ça ne parle pas toujours de provision physique, il faut faire attention. Dieu va pourvoir aux choses physiques parce qu'il l'a promis, mais la première place qu'il veut nourrir, c'est ton âme. Dans Jean 6, 35, Jésus dit « Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » C'est ça que Jésus a dit. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pourquoi que Jésus il dit que si tu vas à lui, tu n'auras jamais faim, si tu vas à lui, tu n'auras jamais soif? Il nous protège. Puis moi, présentement, j'ai soif physiquement. Je vais en prendre une gorgée. Mais Jésus ne parlait pas de ça. Toute l'œuvre qu'il fait intérieurement, c'est qu'il va, apaiser ta faim de connaître la vérité. Il va apaiser ta faim de chercher c'est quoi qui va me sauver, qu'est-ce qui m'arrive. Puis dans d'autres passages, comme dans l'Apocalypse 2.17, il dit qu'il va nous donner la manne cachée. C'est quoi ça, la manne cachée? C'est quelque chose qui ne se voit pas par les hommes. C'est caché. La manne dans le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a envoyé de la manne. Il les a nourris pendant 40 ans de nourriture qui était quand même un miracle, parce que chaque jour, la manne tombait le matin comme une rosée, puis elle se transformait en petites granules à terre. Les Juifs devaient sortir à chaque jour, ramasser des petites granules, puis en ramassant un plat, puis arriver chez eux, la portion unique pour une journée, puis le vendredi, ils en ramassaient deux portions, parce que le samedi, qui était le sabbat, ils devaient ramasser leurs portions la veille, puis... Ce qui était la portion de nourriture pour une journée, c'était la manne. Quand que le peuple d'Israël est rentré dans le désert, la manne a commencé à tomber. Quand ils sont sortis du désert, la manne a arrêté de tomber. C'est une nourriture que Dieu donnait. Sauf que maintenant, Jésus a dit, « Je suis le pain de Dieu. » Ceux qui se nourrissaient de la manne dans l'Ancien Testament, ils avaient encore faim. Mais quand tu te nourris de Jésus, tu n'auras plus jamais faim. Tu trouves les réponses à ta vie parce que tu te nourris de Jésus. Puis c'est une manne cachée. C'est pas quelque chose que tu vois qui tombe du ciel puis qui tombe à terre qu'il faut que tu ramasses à la miette. La manne, là, est dans la parole de Dieu puis est dans l'Esprit Saint. On va être rassasié quand on demeure en Jésus. Quand tu es en communion avec, tu reçois une parfaite satisfaction, mais plus il y a un autre mot pour ça, je ne l'ai pas dans la tête, mais tu n'as plus besoin de rien. Tu es comblé. Il dit dans l'Apocalypse qu'il te donne la manne cachée, puis dans Jean 4.14, qui dit que celui qui croit en moi n'aura jamais soif, dans Jean 4.14, ça nous le dit encore la même idée, que tu n'auras plus jamais soif, mais ça va devenir en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Non seulement tu n'as plus soif quand tu es en Jésus, mais en plus de ça, il y a de quoi qui jaillit de toi, puis qui t'en parle à tout le monde, puis t'arrose les autres. Parce que ça déborde. T'es trop bien dans sa présence que tu ne peux plus te taire. T'es trop rempli. T'as plus soif, t'as plus faim, t'as trouvé. Tu ne cherches plus. Puis là, C'est Jésus qui te le donne, cette provision de nourriture et de breuvage-là, par son esprit, par sa parole. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de verts pâturages. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Les religions, ce que je voulais, celle-là, il faut la retenir. Les religions, je ne parle pas de l'enseignement de la Bible, je parle des religions. Quand on parle de religion, c'est toutes les méthodes, les traditions, les rituels, les autres chemins qui viennent de d'autres, les voleurs, les brigands. Tout ce qui parle d'être sauvé par quelque chose d'autre que par la foi en Jésus, ou même la religion juive du temps de Paul, ben depuis le temps, là, c'était une religion, la religion juive. Les religions et les gens religieux pensent que l'effort humain et leur performance sont méritoires pour être sauvés. Toutes les religions et les gens religieux, ils pensent qu'ils vont être sauvés par leur performance. Si je fais plus d'œuvres, je vais arriver à compenser mes œuvres mauvaises, si je fais plus de bonnes œuvres. On pense toujours qu'on est méritoire de quelque chose, qu'on mérite, qu'on a réussi à aller chercher par des rituels. Si je fais bouillir ça, puis là, ils se font des encens, puis ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent avec ça pour essayer d'arriver à se purifier soi-même ou d'arriver à une sanctification en te morfondant, puis en essayant de jeûner, puis de te faire attention à ce que tu manges, puis de peut-être devenir végétarien, puis en essayant des méthodes, des trans ou bien des méthodes à te plier les jambes en quatre pour faire du yoga, puis là, penser qu'en méditant, tu vas obtenir ton salut ou tu vas obtenir la purification de ton âme ou que tu vas trouver un certain rassasiement ou que tu vas découvrir la vérité ou peut-être même rentrer dans le royaume de Dieu par tous tes rituels. Mensonge de l'ennemi. Toutes les religions y enseignent, puis les gens religieux pensent que l'effort des humains, puis leur performance, que c'est méritoire pour le salut. Romains 9, 30 nous parle de ça, puis Paul, quand il parle de ça, c'est pour répondre à ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés par la loi de Moïse. Je vous ai pris la traduction français courant, qui est encore plus facile à comprendre. J'aimerais mieux que vous écoutiez ce que je dis. Vous pourriez le relire après. J'aimerais mieux que vous écoutiez ce que je vais vous lire. Il est facile à comprendre. Paul est en train de parler aux Romains, dans Romains 9, 30 à 33. Que faut-il en conclure? Ceci. Des gens de d'autres nations qui ne cherchaient pas à se rendre juste devant Dieu ont été rendus justes à ses yeux par la foi. Tandis que les membres du peuple d'Israël, qui cherchaient à se rendre justes aux yeux de Dieu grâce à la loi, ils n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi. Ils pensaient l'être par leur action. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher, dont parle l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber, mais celui qui ne croit en lui ne sera pas déçu. » Je ne sais pas si vous avez saisi l'idée, le texte est un peu long, mais il nous dit en deux comparaisons, il nous parle de gens du dehors, des nations, ils ne cherchaient pas à se rendre juste par leur religion, mais ils ont découvert la foi en Jésus, puis là, ils ont été déclarés justes à cause de leur foi en Jésus, sans avoir pratiqué de religion. Tandis que les Juifs, qui avaient la loi de Moïse, ils essayaient de pratiquer la religion juive dans le but d'être méritoires, de gagner leur ciel par leur propre performance, puis ils se sont heurtés à la pierre qui est Jésus. Ils n'ont pas cru que le salut était par la foi au Messie, ils ont cru que le salut était par leur performance religieuse. Ils ont trébuché, puis ils n'ont pas été agréables à Dieu, puis ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient tous à être sauvés. Tu peux être une personne excessivement religieuse, bien bien dur envers toi-même pour essayer de t'appliquer à pratiquer des rituels puis des choses difficiles par une discipline sévère puis par des rituels quelconques, peut-être qui viennent de tes ancêtres, peut-être c'est des nouvelles choses que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas méritoire devant Dieu pour le salut. Il y a une seule manière pour être sauvé, faut que tu passes par la porte, puis c'est Jésus. C'est par ta foi en Jésus que tu seras sauvé, et non pas par ta performance religieuse. Contrairement aux religions, Jésus offre toutes ses promesses comme un cadeau gratuit saisi par votre foi en lui. Toutes les promesses de la Bible vous sont offertes gratuitement par Jésus, par votre foi en lui. Tiens, on mène à cela. Dans Galates 3, on va en voir quelques points. C'est vraiment extraordinaire. Galates 3, 22. Mais l'Écriture, en parlant de l'Ancien Testament de cette époque-là, quand Paul est en train de parler, l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? On comprend que même si t'as essayé de pratiquer la religion juive toute ta vie, c'était juste pour te montrer comment c'était ta pécheur puis que tu ne pourras pas l'atteindre, le salut. Toutes les promesses de la vie éternelle puis les promesses de la vie présente, ils te sont offertes gratuitement. Tout ce qui a été promis, ça dit dans ce texte-là, c'est donné par la foi en Jésus-Christ à qui? À ceux qui croient. Si tu as la foi ce matin que Jésus a tout payé, tu es passé par la porte. Tu es dans le chemin. Puis là, même là, maintenant, ce matin, le Seigneur est en train de vous donner de la nourriture pour vous nourrir spirituellement, pour combler vos besoins intérieurs, pour que vous ne cherchiez plus ailleurs. Vous êtes en lui et vous avez reçu, toutes les promesses de Dieu sont pour vous, puis vous allez les saisir par votre foi. Hébreux 6:12 nous dit, « En sorte que vous ne relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Toutes les promesses de Dieu s'héritent, tu l'as comme héritage, par la foi. C'est aussi par notre foi en lui que nous recevons l'état d'être déclarés justes. On cherche à être juste, on voudrait être des saints, on voudrait être des justes. Pensez pas que votre religion va vous amener à être déclaré juste devant Dieu. Dieu ne voit pas la justice de l'homme. Comme l'homme pense, oh oui, ça c'est un homme saint, il jeûne 4 fois, 4 jours par semaine, puis ci, puis ça, puis c'est rituel, puis il s'en impose, c'est un saint. C'est pas ça que Dieu regarde. Pas du tout pour déclarer qu'une personne est juste à ses yeux ou est sainte. Ta justice, tu vas l'obtenir par la foi. Dans Romains 5:1, il dit, « Étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, vous êtes déclaré des justes par votre foi. On a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À cause que vous avez la foi, que vous avez la foi en Jésus, ce matin, il faut que vous sentiez, je suis déclaré que je suis un juste. Je marche par la foi. Dieu, quand il me regarde, pas parce que tu as des performances religieuses intenses dans ta vie que tu es déclaré juste, parce que tu as mis ta foi en Dieu, que Jésus est le sauveur du monde, Jésus a tout payé. Toutes ses promesses sont à toi, par ta foi, tu les saisis, elles sont pour toi. Puis Dieu te déclare juste, puis même en plus, tu es rendu en paix avec Dieu grâce à ta foi. Dieu, il a pardonné tes péchés, puis il tient plus compte de tes péchés. Puis il veut pas te traîner à tous les jours dans une condamnation, d'un esprit de condamnation. Il veut te traîner dans tous les jours d'un esprit de satisfaction, sachant que tu es un élu, un pardonné, un racheté. Jésus a tout payé, ça fait partie de sa famille. T'es dans son royaume, t'es plus à Satan. Satan n'a plus de droit légal sur toi. T'es à Dieu, la propriété, tu es la propriété privée de Dieu, le sceau de Dieu sur ton front. Tu lui appartiens, t'es son enfant, puis il t'accompagne de jour en jour jusqu'à temps qu'il vienne te chercher. Puis que tu te retrouves avec lui sur une nuée à la première résurrection pour revenir sur cette terre et régner éternellement avec Jésus. Alléluia! Romains 3:30, ça nous dit, « Puisqu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas 50 dieux, il y a un seul Dieu, un seul qui a créé toutes choses, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Mahomet, c'est pas... Oubliez-les, les religions, ça c'est les religions. Il y a un seul créateur de toutes choses, puis il s'est révélé en une personne, puis c'est Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Que tu sois un juif, les seuls juifs qu'on va voir dans le ciel, c'est ceux qui ont été justifiés à cause de leur foi, et non pas à cause de leur performance. Le salut par la foi, il existe depuis le début de la création. Abraham était justifié à cause de sa foi, puis il est devenu le père des nations à cause de sa foi que les promesses ont été données, puis en sa descendance, c'est Jésus-Christ. Le salut, toutes les promesses de Dieu sont accessibles par la foi au Messie qui devait paraître. Que tu sois un juif, que tu sois une personne dans le monde, tu vas être justifié. Yeshua, tu vas être justifié par ta foi. Par votre foi en Jésus, vous avez permis à Dieu de faire mourir votre vieil homme, puis de vous ressusciter en un nouvel homme. Ça, on voit ça dans Colossiens 2:12. Qu'on est enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Votre nouvelle nature que vous avez reçue en Jésus, votre nouvelle vie, vous êtes né de nouveau. C'est à cause de votre foi que Jésus, que Dieu, a fait mourir votre vieil homme, puis l'ensevelit avec Jésus, puis vous a ressuscité en nouveauté de vie. Vous êtes maintenant une nouvelle créature, complètement lavée. Toute la liste de vos péchés, c'est marqué, payé par Jésus. Vous êtes flambant neuf, vous avez été reseté, vous êtes reparti à zéro. Il a tout oublié ce que vous avez fait avant. Il vous a pardonné. Son sang, le sang de Jésus, nous pardonne et nous purifie de toutes nos iniquités. Puis maintenant, à cause que vous avez mis votre foi en lui, il vous a fait mourir pour que vous soyez morts aux yeux de... Spirituellement parlant, là, on est tous des morts. Mort à la loi, mort aux malédictions que Dieu a données à l'humanité, mort à toutes les attaques de l'ennemi et ses emprises qu'il y avait par les péchés qu'on a commis. Si vous êtes un mort, la vie n'a plus d'effet sur ce mort. Puis en plus de ça, non seulement vous êtes mort aux effets négatifs de cette vie, mais vous recevez une nouvelle vie, vous êtes dans un nouveau royaume, même si vous avez encore les deux pieds sur la terre, vous faites partie du royaume céleste. Vous appartenez à Dieu, vous marchez dans une nouvelle loi, c'est la loi de Christ, puis il y a une puissance dans cette loi-là qui t'a ressuscité, mais qui te fait marcher dans la victoire, puis que tu t'en vas jusqu'au jour où tu vas venir te chercher. Toute notre marche sur la terre ne peut lui plaire que si nous marchons par la foi. Hébreux 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que tu rentres à Jésus dans le chemin, que tu passes par Jésus. C'est par la foi que tu dois continuer à marcher toute ta vie. Sans cette foi-là, ça ne plaît pas à Dieu. Hébreux 10, 38, ça dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Voyez-vous, vous tous qui avez passé par cette porte, à vous qui avez reçu et cru que Jésus a tout payé, vous l'avez accepté, vous l'avez reçu comme votre sauveur, comme votre Seigneur en vous repentant. Vous êtes héritier de toutes ses promesses. Vous êtes maintenant un de ses enfants. Avant, vous étiez des créatures créées par Dieu, mais on n'était pas automatiquement ses enfants. On devient ses enfants quand tu es adopté, quand tu es reçu, quand Dieu dit oui. À cause de sa foi, j'y pardonne tout, maintenant, fait partie de mes enfants. Galates 3:26 nous le dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu mets ta foi, tu es rendu un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Là, c'est le masculin qui le remporte sur le féminin, mais ça comprend les deux. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. On est mort à tout ça. Mais vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parce que tu as passé par Jésus, tu es maintenant la postérité d'Abraham, dans lequel les promesses d'Abraham avaient été faites. Ce n'est pas les héritiers selon les enfants selon la chair, Abraham, qui héritent les promesses. C'est ceux qui sont par la foi, qui sont devenus fils d'Abraham, puis qui sont héritiers des promesses. C'est ce que ce verset-là nous dit. Puis pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision-là, de marcher, de passer par Jésus, puis de recevoir par la foi le pardon de tes péchés, de marcher par la foi dans ta vie, Jésus te demande à faire un effort. Tu ne l'as pas encore su, mais Jésus te demande à faire un effort ce matin, puis de prendre cette décision-là. Parce qu'il va venir un temps où ce que l'entrée par cette porte sera impossible. C'est pas ouvert pour tout le temps, cet accès-là. Puis Jésus lui-même, il est en train de parler à du monde qui avait entendu sa parole, puis il est en train de lui dire, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Faites un effort, dépêchez-vous, ça presse, c'est urgent, négligez pas cet appel-là que je vous fais entrer. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, puis qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes ». Il y a un moment, dans bientôt, que la porte de la grâce va être fermée. C'est aujourd'hui, comme il dit dans Hébreux, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous devons s'efforcer, faire un effort, puis dire, là, ça fait. C'est bien beau les plaisirs, c'est bien beau niaiser, c'est bien beau de courir après tout ce qui est dans ce monde. Ça donne peut-être une satisfaction à ta chair. Mais le chemin de ça, ça c'est le chemin large qui mène à la perdition. Il faut que tu réalises, puis il faut que tu t'efforces à voir, parce que tu as déjà, si tu écoutes ce message-là, tu as des lumières qui ont été données là, ce matin, pour que tu vois que c'est Jésus qui est la porte. Puis il est grandement temps que tu fasses un effort, puis que tu donnes ta vie à Jésus, puis que tu avances par la foi pour le reste de ta vie sans t'en détourner, parce que c'est le seul moyen pour être sauvé. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Il n'y a pas d'autre méthode pour être sauvé. Aucune religion. Il n'y a rien que tu vas pouvoir offrir à Dieu qui va te donner un accès à rentrer et à recevoir toutes ses promesses. Que si tu passes par Jésus. Je vais faire un appel.
Oui, j'avais juste quelque chose à... Tu prends 3 secondes pour regarder Romains 10, 9, 10. Je crois que c'est par le salut d'un bon frère. Si je l'ai...
Romains 10, 9... OK. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture.
Amen.
Quiconque se confie en lui ne sera point confus. Amen. Êtes-vous prête à mettre votre confiance ce matin en Jésus pour votre salut? Avez-vous pris la décision, puis c'est sérieux, c'est pas devant moi, ça vous donne à vous un accès. Moi, je suis déjà rentré. La plupart d'ici sont déjà rentrés. Mais je parle à ceux qui n'ont pas encore pris la décision ou ils jouent dans la porte. Ils sont dans le cordrage, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ils s'en vont en courant, puis ils reviennent dans la porte, puis ils rentrent, puis ils sortent. Il est grandement temps qu'on prenne une décision. Le Saint-Esprit appelle des gens, puis il dit de faire un effort parce que la porte ne sera pas toujours ouverte. Puis il faut la prendre pendant qu'elle est là ce matin. Je fais un appel. S'il y a des gens dans votre cœur, vous sentez, là, je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui parle. Si vous sentez que dans votre cœur, le Saint-Esprit vous travaille, puis il vous me dit, oh, c'est vrai, puis dans un autre sens, vous ne voulez pas parce que vous, votre corps, il résiste. Écoutez pas votre corps. Écoutez pas vos pensées, c'est vos pires ennemis. Faut écouter les révélations de la parole de Dieu, puis dire, oui, prends tout, Seigneur. Je te donne ma vie. Je le crois que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je le crois que tu as versé ton sang pour que je puisse être pardonné. Puis par la foi, ce matin, je le saisis ton cadeau d'être pardonné puis de recevoir ton Saint-Esprit afin que je marche dans cette nouvelle vie-là. Si vous avez cette foi-là ce matin, avancez en avant. On va prier avec vous. Puis le Saint-Esprit va vous sauver instantanément. Puis si d'autres, ils avaient des combats dans leur vie, puis qu'ils essayaient comme toujours faire un effort pour essayer de plaire à Dieu, puis on force, puis on sent pas la paix, faut arrêter de forcer. Faut revenir à comment ce qu'on avait entendu et qu'on avait cru. C'est, on revient à la foi en Jésus, que Jésus a tout payé, c'est déjà tout accompli. On revient à la foi, puis on reste seulement, si je suis sauvé, c'est à cause que j'ai la foi que Jésus m'a pardonné, que Jésus a payé le prix, puis je garde cette foi-là jusqu'à la fin. Ça ne sera jamais mes performances chrétiennes qui vont me donner quoi que ce soit. C'est uniquement notre foi en Jésus, puis qu'on va demeurer dans son repos. Amen.